Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour cette deuxième livraison de notre série spéciale Arrêt sur image s'incruste. Alors, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines où nous étions incrustés dans la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Nous allons aujourd'hui, de la même manière, nous incruster le plus discrètement possible dans l'émission Suivez le guide, émission de France 2, diffusée la semaine dernière, dans laquelle Stéphane Bern et le comédien Laurent Deutsch nous entraînaient à la découverte du Paris révolutionnaire. Alors, cette fois, nous ne nous incrustons pas en direct, hein, vous l'avez bien compris, nous nous incrustons hardardement, puisque l'émission, je vous le disais, était diffusée voici quelques jours, ce qui a laissé le temps à nos deux incrustés d'aujourd'hui, Mathilde Larrère à ma gauche, historienne, et Laëlia Véron à ma droite, stylisticienne, le temps de préparer soigneusement leurs interventions. Mais attention, je crois que l'émission commence, on écoute.
Oui, enfin, moi je pensais que c'était une image, tu sais, une formule, voilà, on prend un peu de recul, un peu de hauteur.
Pour te raconter le Paris de la Révolution française, il fallait vraiment prendre un peu de hauteur.
Oui, c'est pas faux. Enfin, moi, je pensais que tu disais ça, c'était une image, quoi. Tu vois, une manière de t'exprimer. On est où, là, mine de rien ?
Stéphane Bern et Laurent Deutsch, deux grands passionnés d'histoire et de patrimoine, vous entraînent dans un parcours historique à Paris qui vous fera vivre les grandes heures de la Révolution française.
Mes amis, le roi a renvoyé Necker.
Une incroyable balade qui va vous plonger plus de 200 ans en arrière, en faisant ressurgir du passé des monuments qui ont joué un rôle majeur pendant la Révolution.
Alors ?
Oh, c'est magnifique !
Elle était là.
De la place de la Bastille où tout a commencé, à la place de la Concorde qui a vu l'exécution du roi de France, nos deux guides d'exception vont aussi vous raconter les anecdotes.
Elle cristallise la colère populaire. C'est en quelque sorte la femme à abattre.
Et les événements incontournables de cette période.
Elle lui plante le couteau dans la poitrine et il meurt tout de suite.
Laissez-vous guider tout de suite à Paris, au cœur de la Révolution française, comme vous ne l'avez jamais vu.
Voilà, alors dès les premières secondes, les 50 premières secondes de la première minute de cette émission, le dispositif était planté, hein, la balade des deux compères dans Paris, des reconstitutions avec des figurants en costume, et surtout, le surgissement des grands monuments de la Révolution française dans le décor d'aujourd'hui. Alors on aura reconnu successivement, si je ne dis pas d'erreur, la Bastille, la forteresse de la Bastille, la prison du Temple où ont été enfermés Louis XVI et sa famille, la salle du manège qui est le haut lieu de tous les débats des assemblées révolutionnaires. Et la Elia, toi, je crois que tu aimes bien ce dispositif.
Bah oui, moi je trouve que ça fonctionne bien et j'aime bien l'idée au fait de présenter un événement historique passé en lien avec le présent et en lien avec le quotidien de plein de gens. Plein de personnes connaissent la place de la Bastille, enfin la station de métro La Bastille qui est très empruntée. Et voilà, redonner une épaisseur historique là-dedans et le montrer de manière très visuelle en faisant surgir ces bâtiments, moi j'aime bien. Mais je remarque par contre, c'est drôle là, en écoutant, ils disent on va d'abord vous parler des anecdotes et des grands événements. C'est d'abord les anecdotes avant les grands événements. Et c'est assez fidèle, effectivement, à ce qu'on va entendre. Donc oui, moi, j'aime bien ce dispositif visuel. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, bien sûr.
Voilà, et on va y venir, puisqu'on va s'incruster tout au long de leur émission. Je dois dire que moi aussi, j'ai adoré. Parce que moi, il y a une question idiote que je me suis toujours posée quand je passe place de la Bastille. C'est où elle était exactement, la forteresse. Est-ce qu'elle était en plein milieu? Est-ce qu'elle était sur un côté? Et là, j'ai enfin compris. Mathilde, toi, ça t'a pas convaincu?
Non, mais moi j'ai trouvé ça rigolo quand ça sort de terre et tout ça, ça c'est de fait, c'est bien fait. Non, ce qui est utile aussi, c'est que ça permet d'avoir une idée des dimensions. Alors c'est pas trop la Bastille parce que ça, en gros, on sait, enfin, elle est quand même à mon avis plus monumentale que l'impression qui pouvait en être donnée. Mais ce que j'ai trouvé très bien, par exemple, dans la salle du manège, hein, quand on regarde les lithographies ou les gravures de l'époque, souvent d'ailleurs, ils en projettent, hein, on a l'impression que cette salle était très très grande. Et en fait, en la reconstitution, on voit qu'elle est petite. Et ça, c'est pour ça, c'est intéressant. Maintenant, oui, c'est visuel, c'est chouette, mais enfin, ça reste effectivement anecdotique. Le problème, c'est que leur choix de déambuler dans Paris les fait complètement atomiser la chronologie. Ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes parce que... Enfin, je ne sais pas que je pense qu'il faille absolument toujours suivre la chronologie, mais enfin, pour comprendre la Révolution française, un minimum quand même. Et là, on passe de 89 à 92, de 92 à enfin, janvier 93. Non, d'abord, on fait octobre 93 et après janvier 93. Enfin, ça se balade tout le temps, sachant qu'il y a des choses qui ne sont absolument pas traitées.
Ça contribue à parcelliser, au fait, la Révolution, quoi. Il n'y a pas lui donner de cohérence historique, et donner une espèce de cohérence topographique, là.
Mais... Oui, c'est ça, mais en fait, ça ne correspond pas à grand-chose. Sachant qu'il existe déjà tout un tas de parcours dans Paris à base d'applications. La mairie de Paris est en train d'organiser avec des historiens tout un parcours dans la ville de Paris, donc c'est quelque chose qui se fait. Et c'est vrai que c'est chouette de voir sur les lieux, ça marche.
Alors, juste à propos de cette scène spectaculaire du surgissement des monuments, on va faire une toute petite pause, on va se désincruster une seconde. Salut Stéphane et Laurent, on va se désincruster une seconde de leur émission, parce que nous, dans l'équipe d'Arrêt sur Image, quand on a regardé cette scène de surgissement, ça nous a vaguement rappelé quelque chose. Alors, on regarde d'abord le surgissement de la Bastille avec le son. Voilà. Ah ben oui, c'est ça, dit Mathilde, qui n'avait pas remarqué, d'ailleurs moi non plus, qu'effectivement, on est totalement dans un pompage, on peut le dire, de Game of Thrones.
Ah oui, non, ouais. Maintenant ça me paraît absolument évident, mais...
C'est plus une référence qu'un pompage, comme tu as dit.
Alors, peut-être est-ce une référence, peut-être est-ce un pompage. On ne sait pas. Là, Elia, je te signale que tu peux enlever ton casque maintenant. En fait, on avait juste les casques pour le début de l'émission. Parce que,
je l'aime
que...
bien, moi,
mais... Ah bah alors, tu peux tout à fait le garder. Ce sont des casques bidons fake, comme on dit aujourd'hui. Alors, on revient chez nos amis... Stéphane Bern et Laurent Deutsch, on va les retrouver là où on les a laissés au début de l'émission. Alors, je rassure tout de suite Mathilde, pour qui ce visionnage a été quand même une souffrance importante. On ne va pas la regarder en entier, Mathilde, on va faire des grands passages en accéléré. Alors, tu disais que la chronologie est malmenée, oui. Alors, on va regarder un peu les grandes étapes, les grands épisodes révolutionnaires. Alors, si on peut démarrer là, l'accéléré, allez, on passe en accéléré.
En fait, on saute de prison en prison et de procès en procès. C'est-à-dire qu'on fait Bastille-Temple, après Marie-Antoinette Louis XVI. Bon, puis il y a cette excursion, il y a un moment, donc le Palais Royal, là, pas trop.
Alors, attends. On va quand même la prendre dans l'ordre. Par exemple, sur la fuite à Varennes. Alors, la fuite du roi à Varennes, est-ce qu'on...
Alors, on dit jamais la fuite à Varennes.
Dans la tentative.
En fait, parce qu'il n'a pas fui à Varennes, il n'était pas con, il a fui à l'étranger. Et en fait, il s'est fait arrêter à Varennes.
C'était l'étape, oui.
Voilà. Et c'est marrant parce que c'est resté la fuite à Varennes, alors qu'en fait, ça permet... Enfin, c'est pas évidemment pour ça que c'est resté, c'est plus facile à dire, mais il a fui à l'étranger et il s'est fait coincer à Varennes.
On écoute deux secondes.
C'est Desté qui le reconnaît formellement. Et donc Louis XVI et sa famille sont arrêtés à Varennes. Dans la nuit, Louis XVI a cette formule crépusculaire pour la reine où il dit « Eh bien, voyez-vous, madame, il n'y a plus de roi en France. » Et c'est vrai que quand la famille royale, le cortège, est ramené sous bonne escorte à Paris dans la soirée du 25 juin 1791, il a été placardé dans Paris des affiches stipulant qu'il serait interdit au peuple de Paris de crier « Vive le roi !» sous peine d'être bastonné.
Il était aussi interdit de conspuer le roi. En fait, il était interdit de tout dire. C'est-à-dire que les affiches portaient interdiction de l'acclamer et portaient interdiction de le conspuer. Donc en fait, l'interdit
ce
était...
Pas, ce que ne dit pas.
Ce que ne dit pas. Il ne retient que la première partie de l'affiche. Et de fait, la foule a été silencieuse. Les gardes nationaux avec la baïonnette au bout du fusil, ce qui est un signe de deuil. Et en fait, c'est dans les dernières minutes, quand le roi sort du carrosse pour rentrer dans les Tuileries, qu'il a été conspué. Mais c'était aussi interdit.
Alors là, c'est vrai que la collision hein, des deux périodes, là, je viens de voir passer une trottinette dans le Paris d'aujourd'hui. Non, mais franchement, la collision des trottinettes et de la fuite à l'étranger est quand même spectaculaire. Alors, on avance, et l'étape suivante, donc, on arrive en 92, à la journée du 10 août 92. Est-ce que, Mathilde, tu peux rappeler ce qui s'est passé le 10 août 92 ?
Alors, le 10 août 92, c'est la prise des Tuileries. On est dans un contexte très tendu. Depuis le début août, Paris a pris connaissance d'un manifeste qu'on appelle le manifeste de Brunswick, hein, qui est en fait une lettre écrite par des émigrés, des nobles émigrés, mais qui a été signée par le duc de Brunswick, qui dirige les armées autrichiennes et prussiennes, dans lesquelles il menace tout simplement le peuple parisien et de façon générale le peuple français de la plus terrible des séditions. Enfin, le terme est très très clair, hein. En gros, ils vont tous les égorger si jamais ils ne redonnent pas tous ses pouvoirs à Louis XVI. Et donc, l'effet du manifeste est exactement l'inverse de celui qui était prévu, c'est-à-dire qu'au lieu de faire peur aux Parisiens, ça a pour effet de mettre à jour la collusion entre le roi et les armées étrangères, et ça pousse les sections révolutionnaires à d'abord nommer une commune révolutionnaire et dans la soirée, dans la journée du 10 août, à prendre d'assaut les Tuileries, qui est un moment très important et très très violent de la Révolution française et qui va conduire à la chute de la monarchie.
– Et le monsieur qu'on voit derrière nous, qui vient en gros plan plusieurs reprises pendant que tu parles, est un historien, hein. C'est un des quelques historiens qui ont été sollicités par Stéphane Bern. Il s'appelle, il s'appelle Jean-Christian Petit-Fils, c'est un collègue à toi, tu le connais Mathilde ?–
Non.
– Non, bon, voilà.
– Non mais par ailleurs, c'est ça qui est bien, c'est que la moitié des éléments, on voit, ils pillent énormément à tout un tas de livres d'histoire, par exemple, Démolir la Bastille, il y a tout un passage sur Palois au début, Démolir la Bastille, c'est un livre d'Héloïse Bauchet.
Alors, attends, Palois. Qui est Palois ?
Palois. Alors, Palois, c'est un entrepreneur qui décide de son propre chef, le soir même de la prise de la Bastille, de la démonter.
Tandis que le temple se construit sous
tandis
nos yeux.
Tandis que le... Voilà.
Et le commentaire. Oui,
c'est beau, c'est beau. Voilà. Enfin, lui, c'est... ce qui est dit après, dans l'émission sur Palois, le fait qu'il ait, d'une certaine façon, inventé les goodies, les produits dérivés...
Ah bon et que... Il a inventé les produits dérivés
bah, c'est-à-dire qu'en fait, les différentes pierres, hein, il les sculpte et il les vend, mais comme il va créer des médailles, etc. Mais tout ça est parfaitement raconté dans un livre d'Héloïse Bauchet qui s'appelle « La destruction de la Bastille », auquel il n'est pas fait la moindre allusion.
Bah, d'accord, mais enfin, ça appartient à tout le monde, Mathilde.
Oui, mais pourquoi
l'histoire appartient à tout le monde.
Oui, c'est que c'est important de citer les gens qui ont travaillé.
On peut dire que dans une émission de vulgarisation, le but n'est pas de citer tout le temps, mais quand on décide de donner la parole à des personnes qui sont présentées comme expertes, autant donner la parole déjà à des vrais historiens et puis aux historiens auxquels on emprunte, visiblement.
Bah, voilà, c'est ça.
Alors, cela dit, le monsieur qu'on a vu, on ne le connaît pas, donc rien ne nous autorise à dire que ce n'est pas un vrai historien, on n'en sait rien en fait.
Oui, non, autant l'autre, enfin, celui qui dirige la revue Historia n'est pas un vrai historien, ouais. Petit-fils, j'avoue, je ne sais pas.
Voilà, donc tu disais, on va d'une prison à l'autre, d'un procès à l'autre, là on est au temple, hein, la prison du temple, qui est la fameuse. Ben, là aussi, si tu veux, moi je savais que c'était dans le quartier, si tu veux, de la mairie du 3e arrondissement de Paris.
Oui, il y a un nom de station.
Voilà, il y a un nom de station.
De toute façon, le métronome est présent, hein.
Oui, mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, temple, etc. Ça, autant la Bastille, ça éveille, autant temple, c'est pas forcément connu. C'est vrai que là, ça incarne, quoi. Ça incarne la ville, ça incarne l'histoire.
Alors, contrairement aux apparences, on n'est pas en train de faire le procès de Stéphane Bern avec Laëlia Véran, en avocate de la Défense,
non, pas du tout.
Mathilde Larrère.
Non, c'est le dispositif. Oui. Moi, j'aime bien l'idée de réincarner l'histoire dans des lieux, dans des endroits. Après, le dispositif, je pense qu'on peut tout à fait critiquer le fond de ce qu'il raconte et penser que le dispositif est bien fait.
Alors, le fond de ce qu'il raconte et le fond de ce qu'il raconte pas, puisque toi, c'est ce qui t'a frappé, Mathilde.
Oui, en fait, moi, c'est ça. C'est-à-dire que bon, j'ai regardé et il y a des micro-erreurs, mais enfin, ça serait un peu ridicule de les pointer. Il n'y a pas de choses absolument scandaleuses. Il dit, par exemple, sur la Bastille, qu'effectivement, il est question d'aller chercher de la poudre, que le peuple a faim. Tout ça est très, très court. En revanche... C'est tout ce qui n'est pas dit. Mais ça, c'est le propre, en fait. Dès que l'on fait de l'histoire, l'important, c'est les choix que l'on fait.
Tandis que sont apparus sur notre écran les Templiers,
qui
n'ont strictement rien à voir, sauf que c'est eux qui ont fondé le temple. Oui, mais ça s'appelle temple parce que les Templiers.
Oui, mais qu'est-ce que ça rapporte de la Révolution française ? En fait, moi, c'est ça que je trouve dingue. C'est que je me suis pas amusée, moi, j'ai appris
ça, par exemple. J'ai appris temple, Templiers.
Oui, mais plein de petites choses désordonnées, pas mises en rapport, etc. Oui, ok, tu auras plein d'anecdotes à raconter. À temple, ça vient des Templiers. Mais qu'est-ce que tu auras su des causes de la Révolution française, par exemple, des facteurs et du coup, du sens que prennent ces événements ? C'est la différence entre ce qu'on appelle, c'est limite une distinction de philo, un fait divers et un événement. Un événement, ça prend du sens dans la durée, à cause de ses causes et de ses conséquences, alors qu'un fait divers, c'est ponctuel. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on a plein de petits faits ponctuels et qu'on ne sait pas forcément comment les relier ensemble.
Et à l'inverse, ce qui est dingue, c'est que l'événement qu'est la mort de Marat, ils le présentent comme si c'était un fait divers. Donc, en fait, ils font cette inversion.
On va venir plus tard à la mort de Marat, mais tu parlais de ce qui n'est pas dit. Par exemple, quel est le manque le plus criant que tu as décelé dans cette émission, la chose dont tu t'es dit « non, mais c'est dingue qu'ils aient quand même pas parlé de ça ».
Mais il y en a mille. Alors déjà, le peuple est absent.
C'est-à-dire
que la dimension populaire de la Révolution française est absente. On ne voit à un moment que des figurants donc, qui jouent le peuple lors du moment de l'appel aux armes de Camille Desmoulins à la veille de la prise de la Bastille. Mais en fait, toute cette dimension est absente. Et puis, le contenu politique de la Révolution française, c'est-à-dire que de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 89, celle de 93, tout ça disparaît, les différentes lois, la suppression des privilèges, enfin, ça aurait peut-être été mieux de montrer la nuit du 4 août et comment, de fait, c'est intéressant, ce sont les
Alors,
nobles...
– la nuit du 4 août ?–
La nuit du 4 août, c'est l'abolition des privilèges, hein. C'est une nuit expiatoire, complètement dingue, où se succèdent à la tribune, d'abord des représentants ex-représentants de la noblesse, puisque les ordres ont disparu et que maintenant on a l'Assemblée nationale constituante, mais d'abord un noble, un comte, puis un curé, et montent à la tribune et disent... Je renonce à la dîme, je renonce au droit de chasse, je renonce. Donc c'est une nuit incroyable. Alors après, ils vont un petit peu revenir dessus, mais cette nuit du 4 août, elle est autrement.
C'est un événement,
c'est un événement important. Le moment, justement, le 17 juin, quand les
89.
Quand les États généraux deviennent Assemblée nationale, qui est un moment aussi très, très important de la Révolution française. Après, je vous dis, le contenu, donc la nuit du 4 août disparaît, la fusillade du 17 juillet 1791 qui suit d'ailleurs l'arrestation à Varennes est aussi une coupure très importante. On n'a rien sur le maximum, parce que alors le truc dont ils veulent pas le parler, le maximum, c'est donc toute la politique...
Bonne question de l'AMIA.
merci. Donc Mathilde.
En fait, c'est classique, ils réduisent la période de 93 à 94, qu'évidemment ils appellent la terreur, ils la réduisent à sa dimension violente et à sa dimension de négation de l'habeas corpus, sans en donner le contenu politique, social et démocratique. Le maximum est à un moment à deux reprise, d'abord en mai 93, puis en septembre 93, où l'on va fixer un prix maximum à tous les produits de première nécessité. Le pain dans un premier temps, et ensuite tout, c'est-à-dire le savon, les sabots, le tabac, le vin, tout, il y a un prix maximum.
Ce qui fait empêche la spéculation des prix.
Exactement.
C'est une loi de gauche.
C'est une loi sociale.
Oui, tout à fait. C'est une loi très importante. Au point que, si on regarde la mortalité à Paris dans cette période, la logique nous ferait attendre à avoir un taux de mortalité supérieur à cause du rasoir national. C'est comme ça qu'on appelait la guillotine. En réalité, le taux de mortalité chute parce que les gens mangent, parce que les prix sont enfin bloqués et qu'il n'y a pas de spéculation sur les prix. Mais ça, ce contenu politique, social de la Révolution française en général et plus particulièrement de la période 93-94
n'existe absolument pas.
Et c'est ça qui est frappant, et d'ailleurs encore plus frappant quand on le souligne. Parce que moi ce qui me frappe aussi dans cette émission, c'est qu'on connaît les sympathies politiques de Laurent Deutsch et de Stéphane Bern. On sait qu'ils sont tous les deux plutôt proches des monarchistes dans l'histoire et qu'ils n'ont pas de sympathie particulière pour la Révolution. Et pourtant, pour quelqu'un qui aurait regardé l'émission comme ça, sans être spécialement averti, ça ne se voit pas.
Ça se voit dans les choix.
Et puis, ce que dit Mathilde, le fait de passer de procès en procès, de prison en prison, c'est aussi une histoire qui va être juste faite pour le coup sur des affects, sur ces grandes figures, et le fait d'occulter tout ce qui est économique et social. Bon, d'accord, c'est indirect, c'est aussi un choix politique, au fait. Mais...
On est bien d'accord, mais les choix, si j'ose dire, par défaut, sont plus compliqués à déceler
bien
pour
sûr.
Le téléspectateur que le...
Ce qui n'est pas dit. Moi, j'avais un autre exemple dans ces choix par défaut, quand il parle des quignons de pain. Quand il dit, on égorgeait tout le monde, on guillotinait tout le monde, ce qui n'est pas vrai, il me semble, historiquement. Et puis il dit, il y en avait un chez lui qui avait des trognons de pain et on l'a guillotiné. Mais du coup, il ne parle pas du fait qu'il y avait le problème, justement, de la spéculation des prix, du risque de famine.
Qui avait des trognons de pain? J'ai pas compris l'histoire des trognons de pain.
C'est l'histoire de la différence entre faits divers et événements. À un moment, Berne dit qu'il y a quelqu'un qui a été guillotiné. guillotiner parce qu'il avait des quignons de pain chez lui.
Ah, et qu'on l'accusait donc de spéculer sur le pain.
Non, justement, il ne dit pas ça. Il dit juste, il avait des quignons de pain chez lui, on l'a traité d'affameur du peuple. Et on se dit, bah, c'est quoi ces espèces d'horribles révolutionnaires qui vont couper la tête à un type qui a juste trois rondelles de pain
en
chez
fait,
lui.
En fait, c'est Victor Hugo à l'envers.
Ouais.
C'est misérable à l'envers, parce que ça commence comme ça. Jean Valjean, il se fait
mettre en prison parce qu'il
a volé du pain.
Alors, on parlait des procès et de Marie-Antoinette. Je pense qu'un des moments forts de l'émission qui vous a frappé toutes les deux, d'ailleurs, c'est quand on arrive au sort de la malheureuse Marie-Antoinette, à laquelle nous arrivons donc par un savant accéléré, là, voilà, Marie-Antoinette, on va se situer à peu près à la 40e minute. Et là, il y a un passage qui t'a frappé. Là, Elia, on va l'écouter.
Plus tard, j'ai un tableau en tête où on représente Marie-Antoinette face à ses juges. Et il me semble qu'elle était devant la deuxième fenêtre là, et elle avait une chaise, elle.
Oui, tout à fait, elle avait une chaise. 20 heures de procès quand même, hein, oui. Non-stop, hein, de 8 heures du matin jusqu'à 4h30 le lendemain avec une heure de pause. Il faut savoir qu'elle avait perdu beaucoup de poids, elle était amaigrie, elle a été séparée de ses enfants, elle ne les reverra jamais. Elle était la seule prisonnière à ne pas avoir le droit de sortir de son cachot.
Qui était juste là,
en sous-sol, tout à fait au fond d'un couloir.
Il faut qu'il t'invite, l'a accusé, il y a plusieurs chefs d'accusation. D'abord d'avoir pactisé avec l'ennemi, entretenu une correspondance. Il faut dire que son frère était l'empereur d'Autriche. Ensuite, d'affamer le peuple. Mm-hmm. On l'a accusé de dilapider l'argent public.
Bien sûr.
Et on l'a accusé également de...
Le pire du pire, femme, pour une mère, c'est...
L'inceste
sur son fils.
Et c'est là qu'elle s'est levée sur la tribune et elle a dit... J'en appelle à toutes les mères. Et alors, ce qui était incroyable, Johanna...
Attends, je vais te le faire. Elle l'a fait comme ça, elle l'a fait beaucoup mieux. Elle l'a fait comme ça, elle avait... J'en appelle à toutes les mères. J'en appelle à vous. Mais évidemment, vous êtes tous... J'imagine que certains d'entre vous sont mamans. Vous imaginez ce genre de choses. Comment on peut attenter à la pudeur et à la moralité de son fils?
Il faut imaginer le procès du siècle, c'est Marie-Antoinette, tout le monde devait être là, il y avait des gens qui attendaient dehors.
Ah, c'était un spectacle.
C'était un spectacle, ils étaient debout, ils s'exclamaient.
Oui, alors moi ce qui m'a frappé en regardant ce passage-là, quand tu parlais d'une opinion indirecte, comment on prépare l'opinion des gens? Déjà, comment on parle de ce procès de Marie-Antoinette? On commence par nous raconter comme les conditions étaient très difficiles, comme quoi elle ne pouvait pas s'asseoir, etc., avec cette image, effectivement, où elle est en blanc, donc l'image même de l'innocence. Et donc, on est déjà préparé à avoir de l'empathie pour elle avant de savoir les causes du procès, avant de savoir les chefs d'accusation. Donc déjà, ça nous prépare à avoir de l'empathie pour elle. L'empathie, hein, c'est se mettre à la place d'eux, et on voit divers processus de mise à la place de Marie-Antoinette là-dedans. Alors déjà, avec le tableau, on se projette, et puis en plus, on a ce moment où Deutsch va la jouer elle-même. Donc elle est doublement incarnée, et nous, forcément, on se projette dans la position des gens qui les écoutent, et lorsqu'il les interpelle, Deutsch, lorsqu'il dit il y a d'avoir des mamans parmi vous, et bien sûr le mot maman n'est pas un hasard, hein, plutôt que des mères, c'est encore plus jouer sur l'intimité, le côté émouvant, et bien on va se projeter à la place de Marie-Antoinette. Donc tout est fait pour qu'on ait de l'empathie pour elle, et si on regarde les chefs d'accusation, Mathilde, tu corrigeras, mais le chef d'accusation le plus grave, le fait de pactiser avec les puissances étrangères, il est présenté comme une simple chose intime, en disant oui, c'était son frère, on dirait qu'ils s'écrivent pour se parler de la pluie et du beau temps, et alors que bon, elle lui écrit aussi pour autre chose, hein, c'était pas comment vas-tu.
Elle lui transmet les plans, quoi.
C'est ça, première accusation.
Quel plan?
Les plans de campagne des armées révolutionnaires.
Ah, c'est de la haute trahison.
C'est de la trahison. Voilà,
oui, voilà. C'est de la haute trahison. C'est
D'ailleurs, elle est jugée pour haute trahison.
C'est ça, c'est la solidarité des royalistes, au fait, enfin entre eux, des membres des familles royales, voilà. Plutôt. Et donc, ce chef d'accusation, il est de fait il est montré comme ridicule en disant bon, c'était son frère. Le fait de dilapider l'argent public, on passe tout de suite dessus pour s'étendre sur le chef d'accusation qui paraît le plus révoltant, l'accusation d'inceste. Et ça, c'est aussi une manière de dépolitiser, de tout remettre du côté de l'intime et de soigneusement éviter le politique.
Voilà, et sur les conditions de détention, on nous dit que c'était la seule qui n'avait pas le droit de sortir de son cachot. Je t'ai vu dire c'est normal.
Mais c'est normal, il y avait plein de tentatives de complot royaliste, oui, pour essayer de faire évader le complot des œillets, il y en a d'autres. Donc il y avait un risque que les royalistes parviennent à faire évader Marie-Antoinette, et donc elle était surveillée. Après, il y a effectivement... Ce qu'il faut voir, c'est que tout le discours de Bern et Deutsch, en fait, s'inscrit dans une tradition qui se met en place dès l'incarcération de Marie-Antoinette et qui n'aura de cesse de se renforcer, qui est la vision doloriste de la fin de la reine, où en fait, il y a tout un parallèle qui est construit dans la littérature de l'époque entre les martyrs des chrétiennes et Marie-Antoinette.
Carrément.
Ah oui, oui, ce qui va donner après la chapelle expiatoire au sein de la conciergerie, ce qui va donner le culte des reliques, la plupart étant fabriquées aussi à la conciergerie, qui maintenant sont avant étaient présentées comme des reliques et qui maintenant sont présentées justement comme des objets d'histoire, ce qu'elles disent de ce besoin de faire de Marie-Antoinette une martyre.
Là, on n'est pas dans les reliques, on est dans les produits dérivés.
Oui, mais alors ça, il adore les produits dérivés, ça. Alors là, parce que d'abord, on n'a pas le droit, et après, on a lui, quoi.
Moi, ça m'intéresse ce passage sur les produits dérivés, parce qu'on nous montre tous les produits dérivés de Marie-Antoinette, donc image un peu kitsch. Et après, on a quand même un moment où un historien nous dit que si, c'était aussi un sujet politique, Marie-Antoinette. Mais le fait que ça n'arrive qu'après que le procès a été évoqué et qu'après qu'on a tous les produits dérivés, les films, etc., eh ben ça enlève de la force à cette parole-là. Donc, comment est-ce qu'on se construit un sens? C'est aussi l'ordre dans lequel les choses sont dites.
La construction, très important, la construction.
Juste pour revenir sur la question de l'inceste. Alors, de fait, ça a été un moment du procès. Ça peut être intéressant historiquement de l'étudier. Bon, déjà, il faut voir que dans tous les procès politiques, particulièrement à cette période, que ce soit des femmes ou des hommes, s'invitent des accusations, soit d'inceste, soit de luxure. Par exemple, Robespierre, alors il n'y a pas de procès, parce qu'il est à la Convention, mais on lui reproche, on l'accuse, à tort d'ailleurs, de forniquer un peu partout dans Paris. C'est pour casser l'image de Robespierre vertueux.
C'est pas censé être l'incorruptible
vertueux. Non, ça c'est quelque chose le discours qui fait de Robespierre un type coincé, c'est postérieur. Au moment de son accusation, ce qu'on lui reproche, au contraire, de jouer les vertueux, alors qu'en fait,
Mathilde, c'était vrai ou pas?
Je pense que c'est faux.
On n'est pas sûr.
Non,
t'as pas l'air très sûr là.
Non, mais c'est surtout que, en fait,
ça t'intéresse pas trop.
C'est ça. Non, par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des
plaines. Une question qui intéresse les téléspectateurs.
Non, mais il y a. Faut imaginer qu'à l'époque, il y a des libelles, des brochures qui circulent et qui s'appellent la queue de Robespierre.
Enfin,
c'est faut voir. Alors, il n'y a pas que Marie-Antoinette.
Oui, parce qu'on nous parle des gravures sur Marie-Antoinette, des gravures.
En fait, il faut le resituer dans le truc. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, c'est une construction classique qui fait que quand une femme a un pouvoir politique, une façon de la déconsidérer et de la présenter comme mauvaise mère, mauvaise époux. Mmh. Or, il n'y a pas de pire mauvaise mère que la mère incestueuse, sauf infanticide, mais enfin, on voit qu'il est vivant. Et donc, en fait, ce que ça montre, c'est que dans les imaginaires, Marie-Antoinette est devenue le monstre. Et les imaginaires, qui ne sont pas propres d'ailleurs à un camp ou à l'autre, quand ils attaquent une femme, le monstre, c'est forcément la mauvaise mère et c'est la mère incestueuse.
Alors, cela dit, l'épisode du procès de Marie-Antoinette, l'accusation d'inceste revient en permanence toujours. Alors, je voudrais qu'on se désincruste une deuxième fois l'émission Suivez le Guide et qu'on retourne voir un téléfilm beaucoup plus ancien, puisqu'il a été tourné et diffusé à la télévision française en 1989 à l'occasion du bicentenaire de la Révolution. Et on y voit aussi joué par des comédiens le procès de Marie-Antoinette avec l'accusation qui est donc portée par Hébert, le rédacteur en chef du...
C'est le père du chêne.
Du père du chêne, voilà.
Les faits que j'ai à exposer devant le tribunal révolutionnaire sont de nature délicate, mais ils doivent être rendus publics. On sait que la commune, désireuse que le jeune Capet reçoive une éducation digne d'un républicain, l'a confié aux soins d'un excellent patriote, cordonnier de son état, le citoyen Simon. Nous avons une déposition du dit Simon, qui a surpris l'enfant se livrant à des pratiques indécentes, nuisibles pour sa santé. Simon lui a demandé qui lui avait enseigné ce comportement honteux. Et l'enfant a répondu que c'était sa mère et sa tante.
Silence ! Continuez votre déposition.
Conformément à la déclaration faite par le jeune Capet en présence du maire de Paris et du procureur de la commune, il apparaît que ces deux femmes le faisaient souvent coucher entre elles. Que là, dans ce lit, il se commettait des actes de la débauche plus effrayants.
Accusé, qu'avez-vous à répondre ?
Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas parce que la nature elle-même rejette une telle accusation. J'en appelle à toutes les mères qui sont présentes ici. J'en appelle à vous.
Voilà, les mères, hein, et non pas les mamans, comme tu disais.
Oui, c'est pas le niveau, Laurent Deutsch. Laurent Deutsch fait encore plus
fort. Oui, ça fait encore plus fort. Une remarque sur cette représentation donc, du procès de Marie-Antoinette, donc, qui est une représentation de 1989, non, mais... qui à l'époque n'avait pas été tellement critiquée, d'ailleurs, pour son... autant que je me souvienne.
Alors, il faut voir que ce film est en deux parties. C'est la première partie d'Enrico et...
du Robert Enrico, le réalisateur.
Est une partie qui rencontre de la Révolution avec une assez grande fidélité et sérieux, strictement factuel.
Je crois que la première partie s'appelle Les années Lumière.
Voilà. Mais de toute façon... C'est ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait un peu expliquer, mais c'est le résultat d'une historiographie libérale, hein, dont Furet est la personne la plus emblématique, hein, avec l'idée qu'il y aurait une bonne révolution, 89-91, puis un dérapage et une mauvaise révolution à partir de 93. La deuxième partie d'ailleurs de ce film, qui s'appelle, je ne sais plus comment, c'est Les années sombres.
Les années sombres, les années terreur.
Ouais, voilà. Et là, qui est d'ailleurs beaucoup plus... critiquable en termes de réalité, enfin de sérieux dans les faits, dont est extrait ce passage. Et moi, ce que je trouve emblématique dans ce passage, c'est quand on voit le peuple, donc on a des femmes, en fait, c'est la figure construite des fameuses tricoteuses, mais tricoteuses, c'est donc ces femmes qui assistaient, parce que si les gens sont là au procès, ça les intéresse, c'est des femmes qui font de la politique, et elles sont présentées moches, grossières, vociférantes, la vision du peuple, enfin, quand même.
Voilà, le contraste entre les femmes, elle
est digne, elle est...
Elles ne savent pas parler, les femmes du peuple. Non, on remarque que le peuple, c'est que des cris, quoi.
Elles vocifèrent, oui.
C'est vraiment que des... Alors,
Mathilde, quand même, t'aimes pas qu'on touche à 93-94, mais enfin, en même temps, c'est la guillotine... Je vais quand même t'objecter que la guillotine Place de la Concorde, c'est quand même une réalité et qu'elle fonctionnait à plein temps.
Je n'ai jamais dit le contraire. Ce n'est pas que je n'aime pas qu'on touche à 93, c'est que je veux que l'on présente 93 dans son entièreté, c'est-à-dire, effectivement, la dimension, le recul démocratique, la violence politique, que cette violence politique... On l'insère dans une histoire plus longue de la violence politique, qu'on l'explique, que l'on comprenne pourquoi il y a eu ce recours à la violence politique, et qu'on ne présente pas que ça, masquant à côté la dimension démocratique et sociale de cette période. C'est-à-dire qu'il faut la présenter dans sa complexité. Donc c'est pas, je ne veux pas qu'on y touche, bien, au contraire, j'aimerais bien qu'on en parle, mais qu'on en parle pour ce que ça a été, et pas uniquement comme réduit à la terreur, à la mort du roi, à la guillotine. C'est ça qui m'énerve, mais ça m'énerve certes politiquement, mais ça m'énerve d'abord historiquement, parce que ça ne rend pas compte de la période.
– Juste sur ce que tu dis, qui me paraît intéressant, le fait de retracer aussi dans l'histoire, de replacer des événements dans l'histoire, de replacer la violence dans l'histoire. Quand on parle de la violence de la Révolution française, là, quand il parle de la violence des spectacles, du procès, par exemple, et de la mise à mort, il nous présente ça comme si les révolutionnaires avaient inventé ça, alors qu'au fait, la violence des mises à mort, on sait bien qu'elle existait avant, quand même, justement.
– Le supplice de Damien. –
Voilà, le supplice de Damien, par excellence.
– Damien a accusé d'avoir voulu attenter à la mort de Louis XV.
L'accusation d'avoir voulu faire un...
Il a sérieusement attenté.
Et le supplice en place publique, etc., le corps démembré, etc. Et ça, donc, nous présenter ça insidieusement comme si c'était une cruauté, une invention des révolutionnaires, c'est aussi encore une manière de déformer le sens sans mentir.
Alors, construction du... On va retourner chez... D'ailleurs, on y est déjà retourné, chez Stéphane Bern et Laurent Deutsch. Construction du martyrologe de Marie-Antoinette. Il y a un autre aspect, alors, qui est peut-être le clou de l'émission.
L'escalier,
je pense qu'on peut le dire. L'escalier, on arrive au pied. Non, c'est pas cet escalier-là.
Il dit
c'est
le plus émouvant.
Le plus émouvant. Allez, on y est.
Pour moi, le plus émouvant de la Révolution française, c'est la mini casse-route.
Est-ce que tu reconnais l'endroit où nous nous trouvons?
Oui.
Voici ce tableau de Georges Quint que tu connais
certainement. Je le connais, bien sûr.
Regarde. C'est ici que Marie-Antoinette, sortant de là, pour son dernier voyage, si je puis dire, une fois que le tribunal révolutionnaire l'avait jugé le 16 octobre 1793, on lui a coupé les cheveux, on lui a mis une camisole blanche, une coiffe blanche, et elle est là, emmenée par les gardes révolutionnaires.
Et elle a précisément monté cet escalier pour monter à l'échafaud.
Exactement.
Ouais,
c'est assez émouvant.
Ah ben pour moi, sincèrement, c'est l'endroit le plus émouvant du palais de justice.
Ouais,
c'est
super regarde, émouvant.
Très
cet
émouvant.
Escalier
on y
est le même, on y est.
Ouais. Ouais, on y est, c'est là. Heureusement, nous, on n'y est pas pour les mêmes raisons. Et pas alors, encore.
Voilà, elle va prendre le chemin de la place de la Concorde vers l'échafaud.
Voilà.
Et d'autres.
Alors, cet escalier.
Voilà, ça, c'est vraiment l'empathie à son maximum. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il passe de elle est passée là, du passé au présent, en disant on y est. Et c'est vraiment on y est avec elle, on le vit avec elle. C'est le summum de l'empathie. Et puis, c'est intéressant aussi, encore une fois, on a le lieu, le tableau et la projection des personnes qui parlent avec les pronoms personnels, hein, on y est et le présent. Tout pour que on soit Marie-Antoinette et qu'on éprouve ce qu'elle est censée avoir éprouvé. Et il y a aussi le choix de ses représentations, de ses tableaux. Parce que, pour le coup, il nous présente des tableaux. On l'avait vu avant, là, le tableau où elle est en blanc comme ça. Et puis ce tableau-là, où elle est très noble. Alors qu'il y a d'autres choix de tableaux qui sont très connus. Notamment.
Alors, par exemple, on décroche encore une seconde. Voilà. Oui.
Ça, donc un autre tableau qui est très connu.
Une esquisse.
Mais qui est très connu. Et là, je ne sais pas si on peut zoomer un peu, mais en tout cas, on voit, là, voilà, on voit avec la bouche qui va vers le bas. Pour le coup, elle a l'air très revêche. Hein. C'est plus du tout la raideur au sens noble du terme, mais au sens de lointaine.
Alors ça, c'est une esquisse de David, grand David.
Et qui Mathilde, qui est très connue.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe aussi un tableau de David.
En fait, il existe un tableau de David peignant, enfin esquissant rapidement, parce qu'elle est passée assez vite sous ses fenêtres, Marie-Antoinette.
Et c'est intéressant parce que, au fait, l'effet de mise en abyme, si on veut représenter Marie-Antoinette qui va à l'échafaud, mais qu'on essaye, d'un point de vue idéologique, politique, de le faire sans avoir un message pro-Marie-Antoinette, au fait, c'est très difficile. Parce qu'on ne peut pas représenter quelqu'un qui va se faire exécuter, et encore moins une femme, sans avoir un minimum d'empathie. Sinon, on part pour un monstre. Et du coup, le choix de ce tableau est intéressant parce que c'est décaler le sujet. Le sujet, c'est moins Marie-Antoinette que le peintre qui fait cette esquisse de Marie-Antoinette.
Les personnages regardent David et ne regardent pas Marie-Antoinette.
C'est ça, on déplace le regard. Ouais. Et du coup, l'intérêt principal, ce n'est plus elle. Et ça, je pense que c'est un des seuls moyens de représenter ce moment-là sans justement verser dans l'empathie.
C'est un tableau qui est à Vizille, ça.
Qui
est au musée de Vizille.
Vizille, dans l'Isère.
Exactement.
Voilà, qui est un
des musées de la Révolution française.
Voilà, un des premiers lieux importants de la Révolution française. Alors, c'est important qu'on le dise, parce qu'effectivement, les téléspectateurs qui n'auraient vu que le tableau choisi par l'émission de France 2 auraient pu se dire, c'est toujours comme ça, ça s'est passé comme ça. Et là,
il y a d'autres choix de représentation, en fait.
Vous nous permettez vraiment de prendre de la distance, oui.
À l'inverse, quand il s'agit de représenter David, de représenter Marat, eh bien, on ne prend pas le seul tableau christique, parce qu'en fait, c'est des tableaux.
On est toujours sur une peinture de David.
David, alors que c'est un des grands peintres quand même de la Révolution française,
ce
tableau n'est pas montré, alors que c'est le tableau patrimonial.
Attendez, on ne va pas faire de complotisme là. Pourquoi il n'est pas montré
ce tableau ? Je ne sais pas, c'est juste que ça me marque.
Alors,
Il y a une autre représentation
de la mort de Marat qui est montrée dans l'émission de France 2, c'est celle-là.
Ouais, je pense que ça peut être intéressant de comparer un peu les deux et de comparer comment, au fait, une image peut donner un message. On est arrêt sur image quand même, donc faisons-le.
Ne l'oublions pas.
Voilà, parce que là, on voit bien que Marat a été assassiné. Il a le corps qui est mourant. Mais ce qui est intéressant, c'est que il n'est plus le sujet principal.
La lumière est
sur Charlotte Corday, celle qui l'a poignardée.
Sa meurtrière qu'on voit à gauche de l'image.
C'est ça. Et au fait, si on voit la ligne du tableau, qu'est-ce qui fait une ligne ? Alors, Daniel, c'est la ligne du bâton que tient la révolutionnaire au premier rang jusqu'à sa main. Voilà, c'est bon, on voit cette ligne-là. Et donc, ce qui est le sujet du tableau, c'est ce qui va s'abattre sur Charlotte Corday. Ça va être le châtiment qu'elle va subir. Et on voit cette représentation du peuple, ces visages-là qui sont complètement déformés avec ces espèces de bouches qui mangent le visage. Et du coup, ce qui devient le sujet du tableau, c'est pas tellement Marat assassiné, ça va être le peuple furibond, animal, qui va châtier Charlotte Corday.
Alors qu'elle est très blanchie par la
lumière. Elle est très blanchie, elle est très pure. Elle a une pose aussi qui est très noble. Hein. Elle n'a pas du tout la même pose que le peuple. Regardez, elle est quand même très droite. Alors que, pour le coup, il y a ce côté animal vociférant, meute, hein, avec cette représentation
Film d'Enrico.
Mathilde fait très bien la meute et toi, tu fais très bien la pose de Charlotte, très noble de Charlotte Corday.
J'ai jamais dit ça, Daniel.
Un début à tout. Et alors, si on peut juste revoir le tableau de David, voilà.
Voilà, c'est pas du tout le même choix de représentation. Parce que là, pour le coup, d'abord, il y a seulement Marat et on choisit de le représenter à la fois de manière christique, ça c'est une posture très christique, ça fait très le Christ qu'on descend de sa croix, mais ce n'est pas dans la douleur. C'est pas le corps décharné, c'est pas du tout le même corps que dans l'autre avec les côtes qui ressortent. Et au contraire, il y a même un petit sourire sur ses lèvres. C'est vraiment quelque chose qui est un hommage. On voit d'ailleurs
un sourire apaisé,
Amara.
On peut le dire.
Un sourire apaisé avec cette lumière, et c'est un hommage. C'est un peu, oui, une manière de dire qu'il va rester vivant. On arrive quand même à faire un tableau apaisé pour un assassinat.
D'où je déduis quand même, on parlait tout à l'heure du martyrologue chrétien ou christianoïde de Marie-Antoinette, mais il y a aussi un martyrologue christianoïde de David.
Mais c'est tout à fait normal, tout le monde était chrétien à l'époque.
Ouais.
Enfin, c'est,
ah ouais,
c'est...
Mais bon,
oui,
voilà.
Mais c'est normal, justement.
Les recettes sont les mêmes. Quoi.
Oui, en fait, c'est même une guerre, en fait. Il y a une guerre de chacun essayant de récupérer, chacun ayant sa figure christique au bout du compte. Hein.
Mais on peut se demander si c'est un hasard que... les figures christiques de Marie-Antoinette sont représentées, et par contre, la figure christique de Marat ne l'est pas.
Ouais.
Dans l'émission de Byrne et Dutch.
Attendez, est-ce qu'il s'agit d'un hasard ?
Non, pour le coup, c'est pas un hasard que même quand on parle de la mort de Marat, en fait, qui on met en valeur, c'est Charlotte Corday.
Ouais.
C'est meurtrière, encore une fois. Alors, juste, on se décroche une dernière fois de l'émission de France 2 pour retourner voir une représentation télévisée encore antérieure du procès de Marie-Antoinette, alors l'émission que nos plus anciens abonnés dont ils se souviennent peut-être, c'est La Caméra explore le temps, émission des années 60, alors qui était elle aussi dans le martyrologue et la cellule dont elle n'avait pas le droit de sortir et la surveillance de tous les instants, mais qui, à la différence de l'émission actuelle, insistait aussi sur les arrière-plans politique de la décision de traduire Marie-Antoinette en justice, comme le montre cette petite scène de débat au tribunal ou au comité de salut public.
Il y a la convention des députés qui se refusent à voir le danger, qui continuent leurs palabres, les querelles, alors que l'ennemi est à nos portes.
Frappez les mauvais généraux. Frappez ceux qui profitent de nos faiblesses pour s'enrichir. Frappez les ennemis du peuple.
Et Antoinette n'est pas une ennemie du peuple.
Elle est juridiquement innocente, juridiquement. C'est une mauvaise cause qui ne peut être jugée.
Oui, elle ne peut être jugée, car elle est déjà condamnée. Mais elle n'en passera pas moins devant le tribunal.
Mais vous ne pourrez rien prouver, et il vous restera du sang sur les mains.
Mais avant le dissoute, elle a envoyé à l'ennemi le plan de campagne de l'armée française. À cause d'elle, des milliers de soldats français, surpris par la trahison, sont tombés dans les plaines de Flandre.
Je le sais bien.
À Versailles, la politique royale obéissait à l'ambassadeur d'Autriche qui transmettait les ordres de son gouvernement à la reine.
Je sais.
Et cela ne vous suffit pas?
Mais comment le prouverez-vous?
On recherchera des témoins. On retrouvera des preuves.
Voilà, là au moins les choses sont dites, elles sont dites clairement, elles sont dites explicitement. Il faudrait revenir à La Caméra explore le temps, c'était pas mal quand même.
Ah là, c'est vieilli quand même.
Bah, c'est vieilli, mais au moins, voilà, l'acte d'accusation est donné.
Oui, non, mais ça, c'est quand même une tentative intéressante, même si oui, c'est vieilli, le jeu est vieilli, de justement mettre en récit, avec ne serait-ce que parce que les personnages se parlent et c'est pas juste un face caméra, mettre en récit les vraies accusations contre Marie-Antoinette. Donc c'est une bonne tentative quand même de rendre ça intéressant et animé. Hein.
Alors, on va accélérer maintenant jusqu'à la fin de l'émission. Hein, Donc l'émission se poursuit. Ah, ah non, mais on peut aussi la repasser en durée réelle.
Si non, mais on va voir la tête de veau.
Alors, la tête de veau. Alors, on va aller à la tête de veau parce que tu voulais parler de la tête de veau.
Je veux parler de la tête de veau.
La tête de veau, donc, puisqu'il y a une page gastronomique dans cette émission, dans un restaurant qui est un haut lieu révolutionnaire, à peu près à 1h17, où...
Ça, c'est quand même un moment drôle, par ailleurs. Alors, le seul historien interrogé sur la guillotine, c'est Peloux.
Alors, Patrick Peloux...
Il est médecin,
médecin urgentiste.
C'est de tout
enfin,
du coup.
Je sais pas, il y a quand même des historiens qui... J'aime bien Peloux, hein, bon, la question n'est pas là, mais... Bon, enfin, quand
alors,
même...
Allez, la tête de veau. Allez, j'ai faim, moi. arrivons vite à la... Voilà.
Ah, okay.
Voilà, nous y sommes. Attention, séquence tête de veau.
Ouais, séquence top, chef.
Bonjour, chef. Vous voulez le savoir, je vous invite à me suivre en cuisine.
À volontiers.
Laurent.
Oui, merci.
Stéphane.
Alors, merci beaucoup.
Moi, je suis assez costaud, en fait, on dirait pas, mais je fais du XL.
Non, ça vous allez très bien.
Très intéressant.
On vous suit ?
Ravi de savoir.
Avec plaisir.
Oh, là-bas.
Venez. Voilà.
Car avant de déguster ce plat au parfum révolutionnaire, il va falloir le mitonner.
Voici l'objet du débit. La tête de veau, Laurent.
Ah, je suis prêt.
Il y a la tête et la langue.
La tête, voici la tête et la langue.
Ça.
Donc là, on les fait dégorger la nuit. Allô,
on sort de la cuisine. Oui, Mathilde.
Alors, en fait, moi, ce qui m'a fait... hurler de rire et un peu d'énervement en regardant cette longue séquence Top Chef où on sait comment cuisiner une tête de veau, c'est-à-dire que C'est assez long, hein, ça dure bien 10 minutes. Hein, et à aucun moment, ils ne disent, ni l'un, ni l'autre, ni aucun intervenant, que c'est le plat que l'on mange pour l'anniversaire de la mort du roi, les 21 janvier.
Ça pour célébrer joyeusement l'anniversaire.
Pour célébrer, pour commémorer.
Pour commémorer.
Voilà. Et ça, ça n'est jamais dit. On explique que Procope, soi-disant, c'était le plat du pauvre. Bon, le plat du pauvre qui avait quand même un peu d'argent, hein, parce que le pauvre, sinon, il mange des céréales hein, quand il y en a.
Pas de la viande.
Ouais, pas de la viande. Mais à aucun moment, ce n'est dit. C'est pour ça qu'il y a la tête de veau. Et c'est pour ça que le Procope fait de la tête de veau.
Pourquoi il parle de ça, alors enfin, ça vient comme...
Alors ça, pour moi, c'est un mystère absolu. Parce qu'en fait, c'est ça. Alors, il faut savoir que juste après la Révolution française, dès le 21 janvier 1994, on propose de manger non pas du veau, mais du cochon pour l'anniversaire de la décapitation de Louis Capet. Parce qu'en fait, c'est le roi cochon. Puisqu'au lendemain de l'arrestation à Varennes, il a été brossé sous les traits nécessairement négatifs d'un cochon. Et donc, il y a d'abord eu longtemps une tradition de manger des pieds ou de la tête de cochon ou des morceaux de cochon.
Mais on mange le roi, en fait, symboliquement, ça veut dire ça.
Bien
donc
sûr,
c'est
bien
ce,
sûr.
Le contraire du corps sacré du roi.
Oui, et ça correspond à un imaginaire qui par ailleurs, ça sera repris, les révolutionnaires étant des cannibales, gna gna gna. Et en fait, c'est, semble-t-il, fin monarchie de Juillet, en tout cas, c'est attesté lors de la révolution de 1848, que l'on est passé à la tête de veau. On a remplacé la tête de cochon par la tête de veau. Ça vient en fait des Anglais, parce que les Anglais, les radicaux anglais, mangeaient aussi de la tête de veau pour l'anniversaire de la décapitation de leur roi, puisque les Anglais aussi ont décapité un roi dans la Révolution, la première, celle qui ne s'appelle pas Révolution en Angleterre, mais celle de 1649. Et donc le roi Charles Ier avait été décapité et les radicaux anglais mangeaient de la tête de veau. Et les milieux républicains étant plutôt par ailleurs anglophiles dans les élites et la tête de veau étant censée être un mets meilleur que la tête de cochon, à partir de la Révolution de 48, c'est Flaubert qui raconte ça dans l'éducation sentimentale et c'est par ailleurs attesté dans les menus que l'on a, eh bien, on mange les 21 janvier de la tête de veau. Et c'est encore le cas, il y a tout un tas d'associations actuellement mangent de la tête de veau. Et ça n'est jamais dit. Ce qui fait qu'on va avoir 15 minutes de repas, on sait ce qu'ils mangent, nanana, tout ça pour rien.
Vous savez quoi, Mathilde et Elia, je pense qu'on peut dire au revoir maintenant à Stéphane et Laurent.
Hein, non, mais Mathilde va être triste.
Oui, mais tu sais, tu peux aller les voir en replay sur le site de France 2 quand tu veux. Je suppose qu'il va même y avoir des DVD. Je voudrais qu'on conclue cette émission quand même. Bon, bah, parce qu'on a critiqué cette émission de France 2 tout au long de notre propre émission, avec son dispositif, les images virtuelles, les figurants costumés, etc. Je voudrais qu'on se demande à la fin comment finalement on pourrait faire autrement et comment on pourrait faire passer une histoire dont le récit soit attrayant, donne envie, et avec un message qui ne soit pas celui de Stéphane Bern et Laurent Deutsch. Alors on va commencer.
C'est ce qu'il faut. Il faut faire autre chose.
Il faut faire autre chose.
Il ne faut pas se contenter de critiquer comme alors, ça.
Alors,
je voudrais
que tu nous donnes un exemple, Mathilde, mais qu'on commence cet exemple par une autre image de costume à laquelle on ne peut pas échapper cette semaine parce que c'est l'image
d'actualité
que tout le monde a vue. C'est donc alors, on reste à Versailles. Enfin, là, on était à Paris, mais on passe à Versailles. Et c'est donc cette fameuse vidéo de 8 minutes retraçant l'anniversaire de l'ex-PDG de Renault, Carlos Ghosn, à Versailles. Mathilde, quand tu as découvert ces images, quelle a été ta réaction ?
Non, en fait, j'ai été. Ma première réaction est d'être choquée par évidemment le contraste entre l'argent qui s'affiche là. Enfin, on imagine très bien, d'ailleurs, après ça a été dit, le prix de la soirée.
Plus de 600 000 euros, oui.
Voilà, plus de 600 000 euros, avec en plus le problème de savoir qui paye quoi, et est-ce que c'est pour l'anniversaire de l'alliance entre les deux boîtes, ou est-ce que c'est pour l'anniversaire de Ghosn. Enfin bon, ça relève de la justice. Mais donc, une espèce de débauche de luxe, et à Versailles. Et donc forcément, moi, ça m'a fait tiquer parce que c'est justement ce que l'on reproche à la cour, à Marie-Antoinette en particulier, c'est aussi dans le procès, de dilapider l'argent et ce luxe de la cour, et donc de le retrouver à Versailles. Et donc ça m'a fait penser, mais j'ai absolument conscience que ça n'est pas du tout la même chose, mais à un repas qui est offert par le roi et la reine à des mercenaires qui viennent de monter à Paris en octobre 89, les révolutionnaires pouvant à juste titre penser que ces bataillons, ces régiments de mercenaires sont montés à Paris pour écraser la Révolution, et à qui on offre un énorme banquet, voilà une des gravures de l'époque qui le montre, un banquet où l'on fait donc bombance, hein, ce alors qu'au même moment, le pain à Paris atteint des taux tellement élevés que la famine à nouveau se réinstalle, même si c'est une fausse famille, hein, ce qu'on appelle, parce qu'en fait il y avait du pain. C'est d'ailleurs pour ça que après cette fameuse orgie qui a choqué, même on a raconté des fake news dessus, mais enfin je passe vite, les femmes, le 5 octobre 1789, partent à Versailles chercher le roi et du pain et vont revenir avec le roi et le pain. Donc c'est ce qui est terrible. Mais la même fête dans un autre endroit m'aurait pas fait tiquer comme ça, mais choisir Versailles…
– Et reconstituer, c'est pas juste choisir Versailles, c'est être en costume, etc. Moi ce que je trouve assez intéressant, c'est que Carlos Ghosn, donc le grand entrepreneur, on nous présente souvent les entrepreneurs capitalistes comme des gens modernes, vers le progrès, qui ont une façon de gérer l'argent qui est censée être très différente des nobles. On nous dit avant les nobles ils dilapidaient et eux ils investissent, etc. Ben là, au fait, on voit qu'ils dilapident tout autant avec son imaginaire. On dirait qu'il veut acheter le passé aussi et que l'imaginaire est très lié à Versailles. Du coup, ça repolitise aussi beaucoup ces questions-là. Hein.
Alors, cela dit, la reconstitution costumée peut être aussi utilisée pour faire passer une autre vision de l'histoire. Et tu as un exemple récent.
Oui, ça effectivement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rejeter le passage au costume dans les poubelles. On peut effectivement le faire et le faire, on peut s'amuser, c'est-à-dire que je pense que l'on peut s'amuser.
Alors qu'est-ce que c'est ?
On voit en fait, il s'agit du procès de Robespierre organisé par la Fédération francophone de débat, qui est une fédération essentiellement d'étudiants du master au doctorat de droit et d'histoire du droit, et qui reconstitue des procès d'abord pour s'entraîner aussi. Et là, c'était la reconstitution du procès de Robespierre. Ils en ont fait d'autres. Par exemple, il y en a qui sont drôles, genre Dag Vador, il y en a qui sont plus sérieux, Simone Veil, non, en fait, c'est des procès qui n'ont pas forcément eu lieu.
Ah, d'accord.
Et donc, parce qu'il n'y a pas eu de procès de Robespierre, hein, c'est à la Convention, c'est pas un procès, Fouquet-Tinville ne s'est jamais retrouvé. Et là, en fait, donc, c'est le procès de Robespierre, et pour cette occasion, ils avaient effectivement demandé à une association qui fait des costumes révolutionnaires de prêter des costumes pour que les différents impétrants, voilà, ça c'est la liberté ou la mort qui est le... l'une des devises de l'époque. Je rappelle que le « ou la mort » ne veut pas dire que l'on veut donner la mort, mais qu'on est prêt à la subir, hein, comme sur mon t-shirt.
Presque, voilà.
Voilà. Mais c'est important de le rappeler. Et donc, mais en fait, tout était fait à partir de discours d'époque, hein, et c'était, d'une certaine façon, une leçon d'histoire, avec quelques anachronismes, mais ça permettait de dire, en fait, ce qu'avait été aussi Robespierre, hein. Alors voilà, c'était un moment qui était...
Tu y as participé.
En fait, moi, j'étais avec d'autres historiens. Hein, il y avait à peu près tous les historiens de la Révolution française qui étaient dans le jury.
D'accord.
Il y avait aussi Alexis Corbière qui était dans le jury. Hein. Voilà, qui
Alexis Corbière.
Oui, mais parce qu'il a écrit un livre aussi sur Robespierre.
D'accord. Donc, ça lui va très bien. Hein. Tu peux lui transmettre si jamais tu le revois. Il a été acquitté, Robespierre.
Bien sûr.
Évidemment. Alors, il y a les costumes, il y a aussi la littérature. Qu'est-ce que la littérature peut apporter au récit historique ?
Ah, ça, c'est une question. Par exemple, la littérature prend tout le temps l'histoire. Il y a ce qu'on appelle les romans historiques. Et moi, quand on m'a parlé de Marie-Antoinette, moi, ça m'a fait penser à une lecture d'enfance que j'aimais beaucoup, beaucoup, Le Chevalier de Maison Rouge d'Alexandre Dumas, qui est écrit à peu près en même temps que Les Trois Mousquetaires, même si c'est moins connu. Et quelle est l'histoire ? Quel est ce chevalier ? Ben, c'est un chevalier qui essaye de sauver Marie-Antoinette. Et toute l'histoire, c'est sur les royalistes police qui essaye de sauver cette pauvre Marie-Antoinette. Voilà, c'est toujours elle qui est représentée. On voit bien que l'histoire tourne autour d'elle. Et moi, j'ai pleuré pour Marie-Antoinette enfant, Mathilde. Voilà, hein. Moi, ça m'émeuvait beaucoup.
Mais moi aussi,
ça marchait beaucoup.
Ah, ça se coupe.
Ah non, mais ça marchait beaucoup. Et là, voilà, on voit aussi.
Mais si on te tire les larmes, tu larmes. Hein,
mais oui, oui. Et là, par exemple, c'est très bien fait dans Le Chevalier de Maison Rouge. On nous la montre. Voilà, on voit bien l'image, la femme, là, celui qui veut la sauver entre tous ceux qui veulent l'égorger. Et donc, on pleure sur elle, sur ses malheurs, et on pleure aussi sur les malheurs de son fils, le petit dauphin, qui est confié au vilain cordonnier Simon. Alors là, si on peut lire un peu l'extrait, on a un extrait.
Voilà.
Là, c'est bien, je me demandais quel était l'air, comme ça tu vas chanter.
Ah oui, ça,
on va
je
lire
peux.
À deux. Veux-tu chanter ? Dit une voix rauque et avinée, et la voix chanta, comme pour donner l'exemple.
Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris.
Non, dit l'enfant, je ne chanterai pas.
Veux-tu chanter ? Et la voix recommença, Madame Veto avait promis
de faire égorger.
Non, dit l'enfant.
Non, dit l'enfant.
Non, non,
non. Non.
Ah, petit gueux, dit la voix rauque.
Tu fais bien la voix rauque. Et un bruit de lanière sifflante fendit l'air. L'enfant poussa un hurlement de douleur. Ah, sacrebleu, dit Lorrain, c'est cet infâme Simon qui bat le petit Capet.
Et alors ?
Bah,
on pleure.
Bah oui, comment ne pas être ému ? Là, le petit enfant qui est complètement pur et innocent, qui refuse d'insulter sa mère, parce que Madame Veto, ça désigne bien sûr Marie-Antoinette.
Parce que le roi avait le droit de veto.
Voilà, c'est ça. Et bah, il refuse d'insulter sa mère et il se fait battre. C'est vraiment, du coup, l'enfant livré à un tortionnaire, et la figure qui représente le peuple, c'est un tortionnaire. Donc voilà, Le Chevalier de Maison Rouge, c'est l'exemple du roman historique royaliste qui nous fait pleurer pour Marie-Antoinette, pour le dauphin. Et bon, sachez que quand j'étais petite, mais voilà, j'ai un peu grandi depuis.
Paraît-il.
Et du coup, j'ai essayé de réfléchir à d'autres recherches littéraires qui essayent de raconter l'histoire autrement, avec Éric Villard, qui a reçu le prix Goncourt récemment, et qui, déjà, essaye d'avoir plus d'intérêt, plus de respect pour l'exactitude historique, mais toujours en se demandant comment rendre l'histoire plaisante, accessible, et comment faire pour que les lecteurs s'y projettent et y trouvent un intérêt. Donc moi, cette question de la projection, de l'incarnation, avec d'autres moyens que ce que font Berne et Deutsch, là, du point de vue littéraire, ça m'intéresse. Alors, on peut prendre trois exemples. On a l'exemple de 14 juillet, sur la Révolution, parce que, justement, ce qu'il essaye de faire, lui, c'est de ne pas parler de Marie-Antoinette du roi, de parler du peuple. Et justement, tu disais qu'il n'y a pas le peuple dans Deutsch et Berne. Là, il y a le peuple. Mais comment représenter le peuple ? Comment présenter un héros collectif ? Ça peut être très difficile. Souvent, on présente avec des grandes figures qui vont guider le peuple. Mais du coup, on a encore des grandes figures, des grands hommes. On n'a plus la multitude. Moi, ce que j'aime bien dans 14 juillet, c'est que justement, on va avoir plein de petites figures anonymes qui sortent un moment de l'anonymat. Alors, on peut regarder, par exemple, l'extrait. On va peut-être nous enlever, nous, pour pouvoir lire. Donc, on va lire l'extrait. À partir de ce moment, on ne comprend plus rien. Les lieux vacillent, le temps meurt. Tout se précipite. Un jeune épicier observe qu'il serait aisé d'atteindre le chemin de ronde au sommet du mur de la contrescarpe. Ce chemin faisait le tour du fossé. De là, on pourrait sauter dans la cour du gouvernement. Jean-Armand Panetier, c'est son nom, laissera une petite relation de sa journée et retombera aussitôt dans le néant.
C'est vrai, en plus.
Ouais, bah, c'est tout à fait vrai, historiquement.
C'est vrai, historiquement.
Mais à ce moment, le mardi 14, il est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Comme il est de grande taille, il se plante contre la muraille et fait la courte échelle. Le charron tourné monte le premier. Il porte un gilet bleu. Il a 20 ans. 8 à 10 autres le suivent, etc., etc. Ce qui m'intéresse sur cette histoire du héros collectif, c'est de justement montrer qu'est-ce qui fait un héros collectif. C'est la somme de petites individualités. C'est la somme de petites fées. Chacun a la petite étincelle, au fait. Et c'est contre l'histoire événementielle, genre à un moment, il y a une personne qui a déclenché la révolution. Non, ça l'inscrit dans la durée avec toutes ces figures populaires. Et comment est-ce qu'on les incarne ? En donnant leur nom, en donnant leur profession, et ce sont des métiers populaires, et en donnant des petits détails, il a un gilet bleu. Donc ça, c'est la technique dans 14 juillet. C'est différent dans un autre récit, si on passe à l'ordre du jour pour lequel il a eu le Goncourt.
Toujours Villard. Hein.
Toujours Villard. Là, Mathilde, ça m'a intéressée, parce que tu disais sur le problème en histoire, c'est pas juste ce qu'on dit, mais aussi ce qu'on dit pas. Parce que Villard, là, essaye d'insister sur quelque chose qui n'est pas souvent dit quand on parle de la Seconde Guerre mondiale et des nazis, parce que c'est le sujet du livre, c'est la collusion entre les grandes puissances industrielles financière et les nazis. C'est ça qui commence le livre et c'est ça qui termine le livre. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, il ne le raconte juste pas, il essaye de l'incarner. Voilà, là il parle d'une réunion patronale entre les patrons et les nazis et il nous donne des noms que peut-être on ne connaît pas trop, mais à un moment il va nous donner des marques. Regardez, donc là je prends au milieu. Ainsi, les 24 ne s'appellent ni Schitzler, bon, là, moi, l'allemand, ni Wiesleben, ni Schmidt, ni Fink, ni Rosterk, ni Ebel, comme l'état civil nous incite à le croire. Ils s'appellent BASF, Bayer, Agfa, Opel, IG Farben, Siemens, Allianz, Telefunken. Sous ces noms, nous les connaissons. Nous les connaissons même très bien. Ils sont là, parmi nous, entre nous. Ils sont nos voitures, nos machines à laver, nos produits d'entretien, nos radios réveil, l'assurance de notre maison, la pile de notre monde. Ils sont là partout, sous forme de choses, notre quotidien et le leur. Et ça, je trouve ça très intéressant. Comment relier, encore une fois, le passé et le présent? Comment relier notre quotidien, les petites choses de notre quotidien? Tout le monde peut se projeter là-dedans. Et le passé, et encore une fois, faire continuité. Tu disais faire continuité. Ben justement, la continuité et parler aussi de ces causes historiques, sociales. Pour le coup, on est dans l'économique et sociale qui était complètement occultée dans Bernay Deutsch, en avec faisant ça. Cette continuité. Ouais.
Alors, juste sur ce livre-là, je voudrais rappeler qu'il a été contesté par un grand historien américain qui s'appelle Robert Paxton, qui, en gros, a dit que, bien entendu, c'est vrai que tous ces industriels avaient aidé Hitler, mais qu'ils avaient aussi aidé tous les autres partis politiques allemands au même moment.
Oui, mais après, ça a été... Enfin, il y a eu aussi, après, un débat d'historiens... D'abord, les historiens ont...
Disons-le, quoi, voilà.
Oui, disons-le, mais en même temps, on ne va pas s'arrêter à ça non plus, c'est-à-dire que...
C'est pas parce que, aussi, c'était tout à fait possible qu'ils aient d'autres partis pour voir lequel allait accéder au pouvoir, hein. C'est aussi une façon de se ménager différents partis. Mais je voulais aussi reparler d'un dernier exemple, dans le dernier livre de Villard, là, qui est sorti très récemment, « La guerre des pauvres », voilà, parce que là, il y a encore un autre choix. Cette fois-ci, on revient au grand récit. On revient avec ces espèces de figures de gens qui vont mener les masses, mener les pauvres, et on va jouer sur des moments plus empathiques. Là, il y a toute une scène où, par exemple, il y a la fille d'un pauvre qui a été violée par la personne qui récupère les impôts. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va le motiver pour relever les foules? C'est la vengeance. On a la scène de la vengeance. Le cavalier arrive, Van Tiller se jette sur la route, lève le bras et cogne. Le marteau fend le crâne, le cavalier tombe, le cheval gémit et fait un écart. Blanc, un autre coup sur le dos, dans l'éclat aride du jour. L'épaule est fracassée, l'homme n'est plus que chair morte. Alors les paysans se soulèvent à leur tour. Et là, on est dans l'incarnation aussi, avec le présent d'ailleurs, tout ce qui est raconté au présent, on se met à sa place. Et je pense qu'il a fait ce choix-là, parce que pour le coup, c'est un événement historique qu'on connaît moins. C'est les paysans au XVIe siècle, c'est pas comme 14 juillet ou la Seconde Guerre mondiale. Donc il est obligé de revenir à ces grandes figures et à ces émotions pour qu'on puisse se projeter dedans. D'ailleurs, moi, je trouve que ça marche un peu moins bien, peut-être parce que moi, j'ai moins de connaissances historiques de ces moments-là.
Mais ça se passe où et quand?
Ça se passe au XVIe siècle, mais après, c'est dans la durée. Lui, il essaye toujours de faire dans la durée. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est sorti au moment des Gilets jaunes, et c'est assez bref, et on a l'impression qu'il l'a sorti, en tout cas, c'est des débats exprès pour ça, qu'on puisse s'y reconnaître, parce que c'est aussi l'idée des hommes pauvres qui se révoltent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, quelle est la dernière phrase de la guerre des pauvres? Il nous dit qu'il faut pas seulement raconter les martyrs, faut raconter les victoires, et ça se termine par une phrase au futur, je la raconterai. Et ça, c'est aussi saisissez-vous de l'histoire et faites des victoires et moi, je la raconterai.
Mais c'est une formidable conclusion. Voilà.
Je vais juste rajouter un truc. C'est parce que ce qu'il faut faire surtout pour réagir à Berne, etc., c'est faire de l'histoire aussi. C'est-à-dire que le procès là, de Robespierre, c'est un amusement, c'était intéressant. Mais en fait, il y a tout à fait moyen de produire un récit historique, mais qui soit scientifiquement sérieux et qui soit c'est ce qu'on appelle de l'histoire populaire.
Tout en étant vivant.
C'est ce qu'on défend avec Guillaume Mazot et Laurence Decoq dans le livre qu'on a écrit. C'est-à-dire qu'il faut absolument...
L'histoire émancipatrice.
L'histoire comme émancipation.
Oui, c'est vrai, il ne faut pas se cantonner, moi je pense que tu as raison, c'est important de le dire, à soit l'histoire sérieuse mais ennuyeuse d'un côté, soit l'histoire drôle et populaire. Il faut absolument trouver les moyens de faire...
Il faut réinvestir le récit. Quand on regarde je vous envoyais des extraits de Vauvel, etc., ou quand on lit du Mathiez, mais en fait, il y avait beaucoup plus de souffle et de récit.
Et c'est ce que tu fais, Mathilde, sur Twitter et dans Arrêt sur Image, le plus souvent possible, pas assez souvent à mon goût, mais c'est déjà ça. Merci à toutes les deux, merci de nous avoir suivis. Preuve est faite, enfin on a essayé de faire la preuve que, en effet, il n'y a pas de fatalité, Berne et Deutsch, sur l'histoire et la transmission de l'histoire. À la semaine prochaine.